Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat de repos. Les noms de Satan décrivent souvent son caractère. Comment il opère? Satan est appelé l'accusateur, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il aime accuser. Il est appelé aussi un destructeur, l'ennemi, le malin. Il est menteur et le père du mensonge, c'est ce que le Christ a dit à son sujet. Il est le séducteur, le tentateur. Et quand nous regardons la définition dans l'ouvre du mot diable, la première définition, c'est quelqu'un qui est prompt à la calomnie, diffameur, ou on dirait diffamateur, accusant faussement, calomniateur, accusateur. Satan est l'adversaire. Il est l'adversaire de Dieu et il faut aussi que nous soyons conscients qu'il est notre adversaire. Dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit « Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. » Il est aussi appelé le prince de ce monde des ténèbres dans Éphésiens chapitre 6. Et regardons maintenant, si vous voulez bien, 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 11. On va d'abord lire ce verset et ensuite on va voir le contexte. Verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et c'est le titre de ce sermon, « Les desseins de Satan ». Parce qu'il faut pas, il faudrait pas que nous soyons sur la même longueur d'onde que Satan. Mais j'ai voulu voir ce contexte. On va commencer à lire à partir du verset 5. Toujours de Corinthiens chapitre 2 et le verset 5. Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et Paul a donc exhorté les membres à pardonner les membres qui avaient été corrigés, comme Paul a exhorté les membres de Corinthe à faire dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je continue dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. Le pardon fait partie de l'amour. Et donc, Paul demande aux gens de l'accueillir, cette personne maintenant qui s'était repentie, de l'accueillir de nouveau au sein du corps du Christ. Et le manque de pardon, c'est un des outils de Satan. C'est un des outils de Satan. Verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Donc, il vient de parler du pardon. Comme j'ai dit, c'est un des outils de Satan. À la fin de verset 10, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet de ce sermon, les desseins de Satan. Souvent, les desseins de Satan, ce qui nous concerne, ont à voir avec ses propres traits de caractère. Et vous pouvez faire, bien sûr, votre propre étude par rapport au nom de Satan que je viens d'évoquer au début du sermon. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler de trois traits de caractère de Satan et aussi trois, par la même occasion, trois desseins qu'il a contre nous, qu'il va essayer de nous influencer dans ces domaines. Mais avant de parler de ces trois, j'ai voulu regarder Éphésiens chapitre 4, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 4 et le verset 26. Éphésiens chapitre 4 et le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La colère peut être très dévastatrice. Peut nous faire beaucoup de mal si elle n'est pas maîtrisée. Et la colère peut influencer notre vie. Et Satan, par l'intermédiaire de la colère, peut avoir une prise sur notre vie. Un ancrage, si vous voulez. La version synodale et la version Semeur traduisent le verset 27 de la façon suivante. Ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez aucune prise au diable. Et plus il peut nous déstabiliser, Satan, plus il peut nous déstabiliser, plus nous nous laissons dominer par nos émotions, plus il se rend maître de notre vie, qu'il influence notre vie. Le premier dessein de Satan que j'ai voulu mentionner dans ce sermon, c'est l'orgueil. Satan veut que l'orgueil soit présent dans notre vie. Il veut que nous soyons sur la même longueur d'onde que lui-même. Lucifer était au summum de la création des anges de Dieu. Ézéchiel chapitre 28 et le verset 12. Ézéchiel chapitre 28 et le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il était au summum de cette création des anges. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il avait la beauté, il avait la position, il avait des capacités supérieures à d'autres anges. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était au sommet. Mais ce n'était pas assez pour Lucifer. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et le second, la version second, 21, dit ceci. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta bonté. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il y avait du narcissisme. Et Larousse définit narcissisme par un amour excessif porté à l'image de soi. Satan, ou Lucifer, a voulu dominer, il est devenu Satan, il a voulu dominer, avoir la domination, avoir plus. Il est devenu quelqu'un, un être dénué de sens moral. Et il voulait plus. Nous avons la suite de l'histoire, il y a eu sa chute, la chute de Lucifer, est décrite comme étant enracinée dans l'orgueil, justement. La chute de Lucifer est décrite comme étant enracinée dans l'orgueil. Et l'orgueil l'a poussé à rejeter et attaquer son créateur, ou essayer d'attaquer son créateur. Nous avons l'exemple aussi dans l'Ancien Testament de Nabucodonosor. Nous voyons déjà dans Daniel chapitre 3 qu'il a fait ériger une statue. La statue, c'était excessive, poids de taille. Nous voyons la foi et le courage de Shadrach, Meshach et Abednego. Et nous voyons aussi la question du roi à la fin du verset 15. Et quel est le Dieu qui vous délivre de ma main. Il y avait déjà de l'orgueil. Quand nous arrivons au chapitre 4, où il y avait le songe de Nabucodonosor, nous voyons une mise en garde. Daniel a donné l'explication du songe de Nabucodonosor, et dans le verset 27, il y a mise en garde de sa part. Verset 27, Chapitre 4. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 28. Et nous allons voir l'orgueil de Nabucodonosor. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Il était orgueilleux. Évidemment, les jardins suspendus de Babylone était un édifice antique et ces jardins étaient considérés comme une des 7 merveilles du monde antique. Et ils apparaissaient dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques. C'était la même chose que Satan à l'époque. Il y avait la beauté, ne serait-ce que le jardin suspendu de Babylone, sans parler de tout ce qui était dans la ville, il y avait sa position, il était roi de tout l'empire babylonien, c'était quelque chose de très impressionnant, très puissant, et il avait des capacités supérieures. Et tout ça a fait que l'orgueil a pris le dessus dans sa vie. Nous connaissons la suite de l'histoire. Le roi allait avoir sa demeure avec les bêtes des champs et 7 ans allaient passer sur lui. Et puis c'est intéressant, le verset 32, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la reine des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Qui reconnaît Dieu en tant que Dieu suprême. Qui s'humilie sous la main de Dieu. Et puis le verset 37 aussi est très intéressant. Verset 37. Et maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Donc, il s'est humilié sous la main de Dieu, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'était son cas et Dieu l'a abaissé pour qu'il ne marche plus avec orgueil. Le roi a changé. Satan a choisi de ne pas changer. Et nous pouvons aussi changer pour ne pas être sous l'influence de l'orgueil. Nous pouvons avoir la tentation de se voir grand, dans nos propres yeux. Il y a beaucoup de domaines où nous pouvons être influencés par l'orgueil dans nos vies personnelles. J'ai voulu mentionner 3. Il y a les médias sociaux. Avec les médias sociaux, il est facile de se vanter, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mieux fait que les autres. Au lieu de partager, au lieu de donner par ce moyen social, il y a aussi le danger, parfois, quand nous avons des conversations avec nos amis ou avec d'autres personnes, quand nous voulons toujours ajouter, quelqu'un nous parle de son expérience, il y a eu une journée difficile, et que nous pouvons répondre, pour ainsi dire, en disant « ma journée a été pire ». De répondre à l'expérience ou au problème de quelqu'un d'autre en racontant immédiatement une histoire justement similaire à propos d'eux-mêmes avec un résultat plus impressionnant ou plus extrême. Le fait de ressentir le besoin de surpasser les autres dans les conversations. Nous pouvons être influencé par l'orgueil. Ça peut aussi être le cas si nous voulons dominer dans une conversation. Ou bien le fait d'être « je sais tout », d'être supérieur, de tout savoir. Tout ça, c'est un deuxième domaine. Et il y a aussi un troisième domaine parmi toutes les possibilités. Que même sur le plan spirituel, nous pouvons souffrir de l'orgueil. C'était le cas avec le pharisien que nous voyons dans Luc chapitre 18. Nous connaissons bien l'histoire où le pharisien se sentait vraiment supérieur. C'était l'orgueil. Dieu nous demande d'agir et de faire le contraire de ce que nous voyons chez Satan. Dieu veut voir le contraire de l'orgueil que Satan veut voir en nous. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 18. On va commencer à lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18 et le verset 1. Nous avons ici les disciples du Christ qui posaient une question à Jésus et ils n'étaient pas convertis à ce moment-là. Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Le Christ met ceci en perspective et il appelle, verset 2, il appelle un petit enfant. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il a un modèle pour illustrer ce qu'il va dire, pour illustrer ses remarques. Un petit enfant, normalement, c'est quelqu'un qui est enseignable. Les petits enfants n'ont pas les yeux sur eux-mêmes. Nous voyons ça parfois quand il y a des enfants qui participent dans une chorale, des enfants à la fête, qui sont naturels, qui font des choses qu'un adulte ne ferait pas. Et le verset 3, je vous le dis en vérité, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez comme processus, et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est sérieux, c'est même très sérieux, et c'est catégorique. Le Christ illustre davantage ce qu'il voulait dire dans le verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il faut que nous nous débarrassions de l'orgueil pour devenir humble comme un petit enfant. Nous savons ce que Dieu demande et ce que Dieu attend de nous. Trois choses de base qui sont mentionnées dans Michée, chapitre 6 et le verset 8. Michée, chapitre 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que, il y a trois choses qui sont mentionnées, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu. C'est une marche, c'est une démarche, c'est une façon de vivre. Et c'est bien marqué humblement avec ton Dieu, que nous avons une relation personnelle avec Dieu. Il faut que nous soyons assez grandes pour reconnaître que nous sommes petits. Il faut que nous soyons assez grandes pour reconnaître que nous sommes petits. Deuxième dessein de Satan, et de nouveau nous allons commencer avec Lucifer. Lucifer a oublié qui il était. Lucifer est devenu orgueilleux et donc il est devenu Satan. Et Lucifer était un archange créé par Dieu. Il a occupé un poste spécifique. Ézéchiel chapitre 28 et le verset 13, la fin du verset 13. Préparé pour le jour où tu fus créé. Lucifer était créé par Dieu. Aussi dans le verset 15, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Lucifer a oublié qui Dieu était. Qui Dieu est. Le Tout-Puissant, le Maître Suprême, le Créateur. Sa sagesse était de Dieu. La sagesse de Lucifer était de Dieu. Sa beauté, c'est de Dieu qui l'a créé. Sa position, c'est Dieu qui lui a donné. Tout venait de Dieu. Ésaïe chapitre 14, le verset 13. Ésaïe chapitre 14, et le verset 13, il y a quelques versets ici qui sont très intéressants quand nous voyons la mentalité de Satan, celui qui est devenu Satan. Ésaïe chapitre 14, et le verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu. Nous voyons ici le pronom personnel utilisé, première personne du singulier, parce que Satan a les yeux sur lui-même. Il a oublié qu'il était un être créé par Dieu, par l'être suprême, le maître suprême de l'univers. Tu disais en tant que « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur le montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » 5 fois que ce pronom personnel est utilisé par Satan. Il s'est enorgueilli et il a oublié qui il était. Il a oublié le Dieu créateur. Il s'est habitué à son environnement, à sa position, il était confortable et il est devenu grand à ses propres yeux, comme Nabucodonosor. Et à la fin d'Ézéchiel chapitre 28 et le verset 13, 28 verset 13, ses marques étaient tambourins, étaient flûtes, en parlant donc de Lucifer, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Dieu avait préparé des choses pour lui, pour le jour où tu fus créé. Mais Lucifer a péché, son esprit est devenu tordu et il ne raisonnait pas correctement. De penser qu'il pouvait être semblable au Très-Haut, comme c'est marqué dans Ésaïe 14. Tout ce que nous avons, nous, vient de Dieu. Quand nous mourons, nous ne prenons rien avec nous. Les Égyptiens à l'époque étaient persuadés que le tombe était une porte vers un autre monde, et c'est pour ça que les Égyptiens les garnissaient de tout ce qu'ils avaient besoin, tout ce qu'ils auraient besoin, la nourriture, le vin, des vêtements, meubles et autres éléments essentiels pour le voyage. Il ne faut pas que nous oublions qui nous sommes et que ce que nous avons vient de Dieu. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a appelés quand nous étions encore des pécheurs. Il a ouvert notre esprit à la compréhension de sa voie de vie. C'était un miracle. Nous comprenons maintenant pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes sur cette terre, nous comprenons notre incroyable potentialité et le fait de pouvoir naître dans sa famille pour l'éternité. Nous sommes l'argile dans les mains de Dieu. Ésaïe chapitre 45 et le verset 9. Ésaïe chapitre 45 et le verset 9, Dieu met notre vie en perspective, la vie des êtres humains en perspective, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu et ton œuvre, il n'a point de main. Et dans Jérémie chapitre 18, Jérémie chapitre 18, à partir du verset 1, nous avons l'analogie du potier, justement, avec l'argile. Dans Jérémie chapitre 18, le verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends de la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici travailler sur un tour. » Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier maison d'Israël. C'était vrai pour la maison d'Israël et c'est aussi vrai pour nous dans l'Église. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Sur un plan personnel, nous sommes l'argile dans les mains de Dieu. Nous sommes une création de Dieu. Et nous sommes aussi une création spirituelle. C'est à nous de ne pas oublier qui nous sommes. De ne pas être comme Lucifer qui a oublié qui il était. Ça, c'est donc le deuxième point. Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 3. Qui aborde le fait de ne pas oublier. Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est valable pour les jeunes, mais c'est aussi valable pour nous qui sommes plus jeunes, il faut se rappeler de notre Créateur. Nous pouvons nous habituer à notre situation, à devenir tellement familiers que nous oublions qui nous sommes, que nous oublions notre Créateur, que nous perdons le respect pour Dieu. Et même sur un plan physique, nous voyons que quand on devient trop familier avec une situation, certaines situations, ça peut engendrer des problèmes. Quand nous sommes plus attentionnés, même au volant de la voiture, il suffit d'une attention de quelques secondes parfois pour avoir un accident. Mais il y a aussi le problème d'inattention. Parce que les gens deviennent, s'habituent trop à leur situation, leur environnement, là où ils sont au travail, un manque d'attention, un manque de respect pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Et nous, il faut garder le respect pour qui nous sommes. Le fait d'avoir été appelé par Dieu, de ne pas oublier qui nous sommes. Tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, c'est Dieu qui nous a donné la possibilité de pouvoir le faire. Et à nous de faire attention, de ne pas perdre non plus le respect les uns pour les autres. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Nous lisons ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Nous pouvons oublier notre rôle et notre position. Et nous pouvons oublier aussi ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 26 que nous connaissons bien. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il faut se rappeler que nous sommes appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. De ne pas oublier qui nous sommes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, troisième dessein de Satan, c'est le mensonge. Mais là, de nouveau, nous voyons le mensonge dès le départ chez Satan. Lucifer est devenu Satan, le diable. Nous le voyons dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, il y a le mot vrai qui revient à plusieurs reprises. Il y a aussi le mot vérité qui revient à plusieurs reprises. Et nous voyons dans Jean chapitre 8 et le verset 44, le Christ est assez direct. Il parle aux Juifs ici dans le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge. Et avec Adam et Ève, dès le commencement, Satan a menti. C'est ce que nous voyons. C'est intéressant de voir à quel point il a menti dans Genèse chapitre 3, quand il a parlé à Ève. Genèse chapitre 3 et le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il a semé le doute. Il voulut faire croire ce qui n'était pas vrai. Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, et là nous allons déceler quelques mensonges, dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Premier mensonge de la part de Satan. Verset 5. Toujours, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Non, les yeux n'allaient pas s'ouvrir. Deuxième mensonge de la part de Satan. Satan est le père des mensonges. Toujours verset 5. Vous serez comme des dieux. Troisième mensonge de la part de Satan. Connaissant le bien et le mal, quatrième mensonge. Nous pouvons déceler donc au moins quatre mensonges dans le langage de Satan. Et Ève a cru les mensonges de Satan plutôt que de faire confiance à Dieu et de croire son Créateur. Quand nous voyons le récit d'Ananias et Saphira, quand ils ont menti, les conséquences étaient terribles parce que tous les deux, ils ont perdu leur vie. Nous pouvons voir ceci dans Actes chapitre 5, verset 1. Et nous voyons donc par voie des conséquences l'importance de ne pas mentir, l'importance aux yeux de Dieu de ne pas mentir. Dans Actes chapitre 5 et le verset 1. Actes chapitre 5 et le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, donc ils étaient complices, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ils ont fait croire qu'ils donnaient tout, qu'ils donnaient la totalité de la vente, chose qui n'était pas vraie. Mais dans le verset 3, nous lisons, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Donc, il y avait très clairement un mensonge ici, « Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. » C'était ça, le mensonge, de faire croire qu'il a tout donné. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Donc, de nouveau, le mensonge est souligné ici. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Le problème n'était pas qu'Ananias et Saphira n'avaient donné qu'une partie des bénéfices. Le problème, c'est qu'ils avaient menti pour essayer de paraître bien. Toujours le verset 5. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous imaginez la situation. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Elle avait l'occasion de dire la vérité. Elle l'a pas fait. Oui, répondait-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et au même moment, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Dieu n'allait pas permettre une situation comme celle-ci tout au début de l'Église. Nous voyons aussi, avec la fête des pains sans levain, l'importance de la vérité, de ne pas dire des mensonges. C'est ce qui est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est le passage que nous connaissons bien, 1 Corinthiens chapitre 5. Célébrons donc la fête, un peu plus loin, avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Éphésiens chapitre 4, et le verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17, pour situer un petit peu le contexte. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ensuite, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, ou égard votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, donc un renouvellement de notre part, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ici, il parle d'être renouvelé, il parle de l'homme nouveau, et c'est dans ce contexte aussi qu'il parle de vérité. L'importance donc de la vérité. Verset 25. Donc, suite à ceci, il dit dans le verset 25, C'est pourquoi renoncez aux mensonges. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un seul corps. Nous avons des liens les uns avec les autres. Nous pouvons être forts spirituellement et nous pouvons vaincre en résistant à Satan. Satan peut nous détruire moralement, émotionnellement et spirituellement. Et nous avons besoin d'être conscients de qui est Satan. Monsieur Armstrong avait l'habitude de dire « veillez ». Nous avons besoin de veiller sur notre propre croissance spirituelle, de veiller pour être conscient des desseins de Satan, parce que Satan va essayer de nous avoir. Et nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8, c'est ce que la Bible dit, veillez, soyez sobres, veillez. Il faut être conscient de la situation qui est réelle, qui est là, parce que Satan va continuellement essayer de nous faire tomber, de nous faire chuter, de nous faire pécher. Soyez donc veillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui parmi nous qui peut dévorer, qui peut faire tomber, qui peut détruire spirituellement. Les lions s'attaquent, entre autres, à des proies qui sont faibles et à des proies qui sont malades. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à des proies qui sont faibles ou malades. C'est plus facile de les tuer. Et spirituellement, c'est la même chose. Si nous sommes faibles spirituellement, si nous sommes, pour ainsi dire, malades spirituellement, c'est beaucoup plus facile pour Satan de nous dévorer, pour employer le mot biblique, pour nous dévorer. Le mot est un mot fort, mais c'est le mot qui est employé dans la Bible. Satan est notre ennemi. Notre adversaire. Satan ne veut pas que nous ayons la vie éternelle. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. La dernière chose à faire, si un lion vous charge, si un lion vous attaque, c'est de fuir. Il faut rester debout. Il ne faut jamais tourner le dos et fuir quand un lion charge. Les lions sont habitués à voir la victime s'enfuir, mais restez ferme. Et leur faire face, les déroute et les confondre. Mais pour résister à Satan, il faut que nous soyons conscients des pièges de Satan. Il faut que nous soyons conscients des dangers dans nos vies, de l'influence de Satan, pour que nous puissions justement lui résister. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister à Satan.